Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct de la Maison de la Radio pour Un Grand Bien Vous Fasse qui vous accompagne dans votre quotidien bouleversé. On s'intéresse à la colère et à l'agressivité au temps du confinement. La colère qui peut conduire à des comportements violents et qui peut altérer durablement notre bien-être. Quelles sont les raisons biologiques, psychologiques, sociales qui nous font exploser en ce moment? Comment exprimer sa colère sans perdre le contrôle? Qu'est-ce qui vous met en colère, vous, en ce moment? Le manque de masques et de tests sérologiques, l'éducation des enfants à la maison, la vie de couple, le comportement de ceux qui ne respectent pas le confinement. Le standard vous est ouvert, ainsi que la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Tous ensemble, à la maison, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Pour nous aider à dompter notre colère et notre agressivité pendant le confinement, trois experts. Bonjour Catherine Belzong, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes professeure de neurosciences à l'Université de Tours, chercheuse à l'INSERM, et vous avez publié « Biologie des émotions » aux éditions De Book. Bonjour Gérard Bonnet.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, directeur de la collection Psy pour tous chez InPress, l'auteur de nombreux ouvrages clairs et pédagogiques sur la psychanalyse. Vous avez notamment enseigné la psychopathologie à l'Université Paris 7. Bonjour Christophe Hague.
Bonjour Ali.
Vous êtes chercheur en psychologie sociale à l'EM Lyon et vous avez publié La contagion émotionnelle. Christophe Hague, rappelez-nous ce qu'est la contagion émotionnelle. Pour vous, c'est le virus le plus contagieux du monde.
Et oui, parce que les émotions, on les attrape tous et on les émet également tous. Donc on est tous des agents pathogènes en fait de ce type de virus. Et la colère en est un très contagieux.
Alors, pour le Robert, la colère, c'est le violent mécontentement accompagné d'agressivité. La colère, c'est une émotion très contagieuse en ce moment.
Elle est très contagieuse parce qu'il y a tout un tas de déclencheurs assez puissants, que ce soit l'injustice, que ce soit la frustration, celle d'être confiné, qui vont à un moment la déclencher. Et vous savez, en se laissant totalement envahir par elle, de manière trop intense et de manière trop fréquente, on va un peu expérimenter le côté obscur de la force. C'était le problème d'Anakin Skywalker dans Star Wars, qui en se laissant gagner par ça, avait basculé et avait commis des choses un peu terribles. Ce qui est assez surprenant, c'est que vous avez des études en neurosciences qui ont révélé que sous l'effet de la colère, notre rapport au temps, il change. Ressentir cette émotion vraiment fortement, ça vient directement dérégler votre horloge interne, vous savez, ce temps subjectif qui est évalué par l'organisme. Et on sait que quand il y a colère, il y a libération de dopamine dans le cerveau. Et il s'agit là du principal neurotransmetteur qui est impliqué dans le traitement cérébral du temps. Et donc c'est sous cet effet là de la dopamine que l'horloge interne va s'activer. Et ça place votre organisme dans des dispositions totalement inhabituelles.
Catherine Belzong.
Ça surprend beaucoup.
Ouais. Catherine Belzong, vous êtes d'accord avec ça?
Alors oui, bien sûr, quand on est en colère, il y a des modifications cérébrales, à la fois de la neurotransmission, comme ça a été souligné par Christophe Hague, mais également des modifications carrément du fonctionnement de certaines parties du cerveau.
Alors que se passe-t-il
des régions du cerveau.
Que se passe-t-il exactement dans notre cerveau quand nous nous mettons en colère? Quel est le processus biochimique?
Alors en fait, il y a deux systèmes, basiquement, qu'on pourrait décrire. Il y a un système qui est un système, on va dire, assez primitif, dans le sens que c'est un système qui existe déjà chez les reptiles, par exemple, qui nous permettent réellement d'exécuter un comportement de colère. Donc c'est quelque chose, évidemment, d'une certaine manière, c'est assez adaptatif, ça nous permet, comment dirais-je, de défendre nos intérêts éventuellement. Mais évidemment, si ce système est activé de façon trop fréquente et trop intense, évidemment, ça va dégrader fortement le lien social. C'est pourquoi il y a également d'autres régions du cerveau qui sont des régions qu'on appelle des régions de régulation émotionnelle. C'est-à-dire quand on a envie d'exploser parce qu'on est très en colère, on a la possibilité de ne pas le faire parce qu'on a ces régions cérébrales de la régulation émotionnelle qui contrôle les zones cérébrales plus primitives.
Alors Catherine Belzong, au centre d'une émotion comme la colère, et puis de la plupart des émotions, l'amygdale, une structure cérébrale en forme d'amande. Expliquez-nous un peu le rôle de l'amygdale dans nos émotions fortes, et notamment la colère.
Ben, l'amygdale, c'est effectivement une région, comment dirais-je, qu'on partage avec avec beaucoup d'autres espèces, et elle va un petit peu servir d'intégrateur, c'est-à-dire elle va coordonner la réponse de peur, parce que quand vous avez peur, quand vous êtes en colère ou que vous avez peur, vous avez à la fois un comportement, c'est-à-dire vous pouvez être violent, mais vous pouvez aussi avoir une expression verbale, vous pouvez crier, etc. Vous avez également des sécrétions de différentes hormones, de neurotransmetteurs. Vous avez également une activation, par exemple, du rythme cardiaque. Donc toutes ces régions, toutes ces réactions-là apparaissent de façon coordonnée, elles apparaissent en même temps. Et c'est un petit peu l'amygdale qui permet cette coordination.
Et existe-t-il une structure cérébrale qui permet de court-circuiter l'amygdale et qui permet de calmer la colère avant de verser dans l'agressivité?
Voilà, alors justement, il existe en fait trois systèmes qu'on appelle des systèmes de régulation émotionnelle qui permettent d'éviter d'exploser. Et ces systèmes sont basés sur différentes stratégies. C'est-à-dire quand vous êtes tout à fait excédé, par exemple, il y a un voisin qui fait du bruit et vraiment c'est la énième fois et que vous êtes vraiment au bord d'exploser, vous avez différentes façons de vous y prendre. Vous pouvez soit vous dire ben non, je vais pas exploser, donc je vais me contrôler. Donc là, vous essayez, comment dirais-je, d'inhiber votre réaction corporelle. Une deuxième stratégie, ça va être de se dire ben, je vais essayer de pas y prêter attention. Et une troisième stratégie, mais cette troisième stratégie est beaucoup plus efficace que les autres, c'est une stratégie qui va consister à essayer de prendre la perspective d'autrui. De vous dire, ben finalement, si le voisin il fait du bruit, c'est peut-être parce qu'il a besoin de, voilà, je sais pas, imaginons qu'il fasse de la musique et qu'il joue mal, ben vous pouvez vous dire, ça lui fait bien de jouer de la musique. Donc vous essayez de vous mettre dans la peau de l'autre, et ça c'est une stratégie de régulation émotionnelle très efficace. Car ces trois stratégies mettent en œuvre des régions du cerveau très différentes.
Christophe Hague.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Catherine. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que les céréales colériques, effectivement, ont une faible capacité de régulation émotionnelle. Et quand on cherche à identifier les zones du cerveau, effectivement, on a toute cette partie préfrontale. On voit que vous avez des actions, une création on produit des activités de neurones calmants pour désexciter, en fait, l'amygdale limbique, pour refroidir un petit peu ce moteur qui, à un moment, peut-être, était en surchauffe pour des mauvaises raisons. Donc c'est le cerveau humain, il y a une espèce de ping-pong qui se joue entre les zones limbiques, les zones émotionnelles et les zones de contrôle. Et vous avez des personnes qui, sur cette table de jeu, sont plus douées que d'autres. Donc on n'est pas tous égaux face à nos capacités à réguler la colère. Et on le voit en ce moment en grandeur nature. Mais j'ai juste envie de dire une chose, on n'est pas l'émotion que l'on ressent. L'émotion, c'est une information qui vient en nous. Donc les personnes qui aujourd'hui ressentent aussi de manière fréquente de la colère, etc., voilà, il y a aussi un contexte, il y a un terreau fertile à tout ça. Parce qu'on peut très vite se dévaloriser quand on devient prisonnier de cette émotion. Et c'est ce que je voulais vous dire avant, c'est-à-dire que quand vous avez un rapport au temps qui est totalement changé, votre perception du temps qui est changée, que ça vous bouleverse, et que vous avez ces drôles de sensations qui s'invitent en vous, et ben à un moment, on peut se laisser glisser, on peut devenir, voilà, il y a un syndrome de Stockholm par rapport à cette espèce d'émotion-là, et ça peut, d'une certaine manière, un peu nous dénaturer. Mais on n'est pas l'émotion que l'on ressent, donc là, je voudrais rassurer toutes les personnes aussi qui sont dans des schémas où on se dit, tiens, je me reconnais pas face au miroir.
La colère, cet affect le plus inquiétant et le plus humain, nous dit le philosophe allemand Peter Sloterdijk. Gérard Bonnet, la colère est consubstantielle à notre condition humaine?
Oui, je crois, parce qu'elle fait partie des toutes premières émotions que ressent le bébé. Hein. Par exemple, Winnicott insiste en parlant des différentes formes de cris, de pleurs du bébé. Et il dit vraiment, la colère est typique d'une façon de se poser de la part de l'enfant. Alors, on sait que c'est pas commode à gérer, mais je crois que c'est respectable dans son fond, parce que ça veut dire que le petit bonhomme là qui est en face de nous est déjà un sujet et un sujet qui à certains moments se révolte très profondément et à partir de sa propre personnalité pour essayer de faire passer quelque chose, ce qui n'est pas toujours facile à entendre. Hein. Donc je crois que vraiment c'est un des, ce que nous on appelle un affect en psychanalyse, hein, une des émotions primaires qui de toute façon est au fond de tout sujet, d'ailleurs on vient de le dire au niveau neurologique mais c'est vrai aussi au niveau psychanalytique, et qui touche à ce qu'on appelle le jeu, c'est-à-dire le sujet bien avant le moi, hein, c'est-à-dire le moment où on se constitue comme quelqu'un d'unique et d'irremplaçable.
Et d'un point de vue psychanalytique, Gérard Bonnet, la colère exprime toujours une frustration, un désir, une attente déçue?
Pas forcément. Mmh. Hein. Je crois que c'est surtout un sujet qui n'arrive pas à se poser comme tel, c'est-à-dire qui, tout à coup, n'arrive pas à se faire reconnaître, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a l'impression d'être... ça va loin, hein, parce que Winnicott parle de déréliction, c'est-à-dire qu'il y a l'impression qu'on est en train de le laisser complètement tomber. Ça, c'est au point de départ, hein, c'est-à-dire dans la partie la plus profonde du psychisme. Mais après, ça va prendre d'autres formes. Mais je crois que c'est très important quand même de se dire que on a tous comme ça, au fond de nous-mêmes, un fond de revendication radicale. D'ailleurs, hein, on vient d'évoquer les mouvements de masse, les mouvements de foule quand quelque chose est brimé. Et alors là, tout le monde se sent touché parce que on a tous ce ressort au fond de nous-mêmes. Mais en tout cas, je pense, et d'ailleurs c'est pas pour rien que dans la mythologie grecque, la colère a une importance capitale, c'est vraiment un des affects les plus profonds et les plus personnels.
Bienvenue Geneviève.
Bonjour.
D'où appelez-vous Geneviève?
Alors j'appelle de l'Aveyron, j'ai beaucoup de chance d'être confinée dans l'Aveyron.
Et qu'est-ce qui vous met en colère alors?
Alors ce qui me met en colère, beaucoup de choses bien sûr comme tout le monde en ce moment, mais en particulier la question des EHPAD, corrélée par le manque de pragmatisme de ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'on apporte toujours des solutions globales sans tenir compte du cas par cas. Et ce qui me met vraiment en colère, c'est l'abandon total de nos personnes âgées et des soignants d'ailleurs aussi qui participent à tenir à flot des établissements qui étaient déjà en déliquescence avant le Covid-19. Et ce qui me met en colère, c'est l'incapacité de nos dirigeants à avoir des solutions. Par exemple, pour les personnes âgées et les soignants, ce serait les tests en priorité. On attend des tests hypothétiques. Et l'une des solutions, ce serait par exemple de nommer un référent par famille qui serait lui aussi testé et qui permettrait donc de visiter justement son aîné pour soulager les soignants et puis pour recréer du lien avec ces personnes. Et ça me met vraiment en colère.
Christophe Hague, j'ai l'impression que c'est une saine colère que vient d'exprimer Geneviève. Il existe des saines colères qu'il faut exprimer.
Mais toutes. À la base, toutes les émotions ont un rôle utile, en fait, fonctionnel. C'est quand elles sont en surdosage, qu'elles n'arrivent pas dans le bon tempo, le bon timing, qu'elles vous dérèglent. Mais là, la colère, elle vous permet de vous battre contre des injustices. Et je pense que après cette crise, après ce confinement, il y aura des choses qui devront être réglées. La colère, elle vous met aussi face, quelquefois, à une sorte de lucidité de soi, ou de lucidité, finalement, de ce qui se passe. Et là, on le voit bien, le constat qui est aujourd'hui fait au niveau des EHPAD, il n'était pas fait avant. Et là, aujourd'hui, c'est mu presque par une émotion très forte qui nous amène à ça. Et il faut aussi penser dans ces instituts, dans ces organismes, au personnel qui lui-même est en colère et qui lui-même peut transmettre cette colère aux seniors, aux personnes qui sont là-bas. Et nous, juste pour vous le dire, mais rapidement, mais on a mis une plateforme en place avec une collègue à Louvain, totalement gratuitement, hein, c'est pour ça que je le dis, pour justement réguler ce type d'émotion. Ça s'appelle Moodwork et ça permet vraiment à un moment de travailler sur tout ça, sur ces facteurs de mal-être qui aujourd'hui peuvent envahir et le personnel soignants et également les patients. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une nécessité absolue d'outiller ces personnes que j'invite aussi, pourquoi pas aujourd'hui, à télécharger une appli à nouveau qui est totalement gratuite, qui a été faite par des chercheurs et qui s'appelle Docteur Mood. Docteur DR Mood, MOOD, et qui vous permet rapidement de savoir quelle émotion vous ressentez à un instant T, ça peut être de la colère, et derrière de vous expliquer pourquoi vous la ressentez, et si elle est en surdosage, si elle est inadaptée, et bien de vous proposer des petits exercices à faire chez vous, ou alors dans le lieu où vous êtes confiné, eh bien, pour la réguler au mieux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un besoin absolu d'outiller les individus, et c'est pour ça que cette crise, elle doit nous amener aussi à repenser l'éducation de nos enfants. Pour les futures crises à venir, on a besoin aujourd'hui de travailler sur ces soft skills, ces compétences émotionnelles qui, finalement, sont pas si soft que ça, sont plutôt des hard skills, et qui leur permettront, à un moment, eh bien, de mieux réguler. Là, on parle aujourd'hui de la colère, mais on pourrait parler de la peur, de l'anxiété et de tout un tas d'émotions qui peuvent devenir toxiques lorsqu'elles sont en suractivité au niveau de notre cerveau et de notre corps.
Soft skill, expliquez-nous en quelques mots ce que ça veut dire.
On va dire des compétences un peu douces, psychologiques, quand on a longtemps relégué, on va dire, sur le banc de touche de notre système éducationnel, alors qu'on le voit dans certains pays, c'est au programme quelques heures par semaine pour développer son empathie, pour développer justement ses capacités à réguler ses émotions. Je pense que ça, on devrait l'introduire quasi en intraveineuse, sans mauvais jeu de mots, dans notre système éducatif pour préparer tout un tas d'autres jours d'après, parce qu'on va peut-être revivre d'autres épisodes comme celui-ci.
Merci beaucoup Christophe Hack, vous êtes obligé de nous quitter, et merci également Geneviève de nous avoir appelé. Et vous, qu'est-ce qui vous met en colère pendant cette période de confinement? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Alexia Rivière, Julia Macarez, Denis Deras et Josepha Gourvennec m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Céline Hilla, avec l'aide de Valérie Ayestaraï. À la technique ce matin, Charles Pellabon.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
9h30, comment gérer la colère et l'agressivité au temps du confinement? C'est la question que nous posons à nos invités, la professeure en neurosciences Catherine Belzing, le psychanalyste Gérard Bonnet et le spécialiste des émotions Ilios Kotsou que nous accueillons, docteur en psychologie, qui a notamment publié les compétences émotionnelles chez Duno. André nous dit sur notre page Facebook que je ne me mets plus en colère car c'est toxique. Catherine Belzing, est-ce que la colère est toxique? Est-ce qu'elle est néfaste pour notre organisme?
Non, la colère en elle-même n'est pas toxique. Ce qui peut être toxique, c'est effectivement si elle est répétée, parce que évidemment à chaque fois qu'on est en colère, on va sécréter certaines hormones, on va sécréter en particulier des hormones du stress. Et si ceci se survient de manière répétée, effectivement, ça peut avoir des effets négatifs à la fois sur le corps, mais aussi sur le cerveau lui-même. Donc le cerveau lui-même peut être légèrement détruit par les hormones du stress. En particulier, ce qui est encore pire, c'est que les hormones du stress, quand elles ont un effet détrimental sur le cerveau, elle ne va pas toucher de manière équivalente toutes les zones du cerveau, mais elle va plutôt toucher les régions du cerveau de la régulation émotionnelle, justement.
Ilios Kotsou.
Bonjour.
Est-ce que ce sont les émotions agréables ou les émotions désagréables qui perdurent le plus dans notre organisme, dans notre psyché?
Alors on vit beaucoup plus d'émotions agréables que d'émotions désagréables, mais évidemment comme les émotions désagréables sont reliées au contexte de survie, elles prennent plus d'importance dans notre mémoire, on a l'impression de les vivre plus souvent, et donc une petite émotion désagréable va teinter toute une journée alors qu'on a vécu beaucoup d'émotions agréables. Ce qui est intéressant dans la colère, c'est que la colère, elle nous apporte vraiment un double message. Elle signale à la fois une insatisfaction et à la fois elle nous signale quel est l'obstacle à notre bien-être. Et donc c'est vraiment une émotion qui est extrêmement importante, vraiment très importante dans notre vie. Et ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que c'est pas la colère qui est un problème, mais c'est les tendances à l'action qui sont liées à la colère. Et donc la tendance à l'action liée à la colère, naturellement, c'est que la colère prépare à des comportements hostiles. Et donc c'est plutôt l'agression. Donc tout l'organisme va être mobilisé dans la colère, dans l'idée de détruire, d'écarter, de repousser l'obstacle qui se met entre nous et ce qu'on aimerait bien obtenir. Alors c'est utile, évidemment, comme l'a dit Geneviève, pour les EHPAD, certaines des colères sont vraiment des colères utiles, mais la question c'est, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on sera emporté par une tendance à l'action qui va nous amener à dérailler? Ou est-ce qu'on va avoir un comportement qui va servir le besoin ou la valeur qui est là? Et une des premières clés, c'est vraiment ça, c'est transformer ce mouvement qui est contre, ma colère m'amène contre quelque chose, en un mouvement pour. Et donc la question à me poser, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Au fond, que me dit la colère? Quelle est la valeur que je veux défendre? Et comment vais-je pouvoir mettre mon énergie au service de cette valeur-là plutôt que détruire quelque chose autour de moi?
Gérard Bonnet, vous êtes d'accord avec ça? Je rappelle que vous êtes psychanalyste.
Oui, non, mais je suis assez d'accord, parce que je pense que, en tant qu'analyste en tout cas, c'est important de ne pas réprimer la colère. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, on doit apprendre à la porter, à l'accepter, parce qu'il y a des moments, en effet, où elle surgit malgré nous, et si on se contente de la renvoyer en disant « non, je ne dois pas me mettre en colère et je me crispe autour de cette colère », elle va donner naissance à des actes manqués, à des bêtises, à des moments excessifs qu'on n'aura pas contrôlés. Donc je pense que on a tous intérêt à avoir, je vais presque dire, une espèce de présence à la colère qui est en nous. Quels que soient les moments, par exemple en ce moment, il est évident que quand on entend dire qu'il va falloir encore attendre plusieurs semaines pour sortir du confinement, certains ressentent une espèce de poussée interne, et je crois qu'il faut essayer à la fois de l'accepter, de l'identifier, et puis d'en voir les racines. Alors ici, on a surtout parlé des racines neurologiques, enfin je veux dire du fonctionnement cérébral, mais on a tous dans notre histoire des raisons qui nous ont poussés à nous mettre en colère. Et quelquefois des raisons très profondes, on parle des anciens, mais les anciens dans un moment comme celui-ci de confinement, ça leur rappelle des confinements passés, des moments où ils ont été frustrés. Et c'est en essayant aussi de prendre conscience de ces moments particulièrement difficiles que peut-être ils géreront mieux ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, une des choses qui me frappe beaucoup, c'est que on l'a redit aujourd'hui, qu'il faut être attentif aux anciens, mais est-ce qu'on les écoute ? Est-ce qu'on va leur dire un peu qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous rappelle ? Et je crois que ce serait très intéressant aussi de permettre aux anciens de raconter un peu ce qu'ils ont vécu de confinement, de moments de rejet comme ça très difficiles ou de mise à l'écart, et qui peuvent être à l'origine de colère, et entre nous de colère qui peuvent être beaucoup plus dramatiques pour leur santé que le virus lui-même.
Catherine Belzung, le nuancier de la colère est assez vaste, on parle de colère froide, on peut être vert, rouge, noir de colère. D'un point de vue scientifique, ça correspond à quelque chose ?
Alors évidemment le code couleur qui est employé n'a pas beaucoup de pas beaucoup de sens sur le plan scientifique, mais par contre en fait on peut observer effectivement que les différentes formes de colère activent des systèmes cérébraux différents, ça effectivement.
Pourquoi certains se mettent facilement en colère alors que d'autres savent conserver leur sang-froid en toutes circonstances?
Alors là-dessus, en tout cas, le neurobiologiste peut répondre assez aisément, parce que je parlais tout à l'heure de ces systèmes qui permettent de réguler les émotions, et ces systèmes-là sont des systèmes qu'on peut développer. Donc plus ils seront développés, plus ils seront efficaces. Par exemple, ces systèmes peuvent être augmentés par la pratique de la méditation de pleine conscience, ça a été montré. Ils peuvent être développés aussi par la pratique de l'activité physique. Donc ils peuvent aussi se développer par des comportements qui visent à augmenter l'empathie envers autrui. Donc il existe toute une série d'outils pour améliorer l'efficacité de ces systèmes de régulation émotionnelle. Par ailleurs, malheureusement, ces systèmes de régulation émotionnelle peuvent aussi être détériorés. Ils peuvent être détériorés par des stress importants qui surviennent soit à l'âge adulte, soit pendant l'enfance. Et ce qui peut également être détérioré, c'est la communication de ces systèmes qui permettent de réguler notre colère avec les systèmes qui permettent d'avoir une réponse de colère. Donc le dialogue entre les deux peut aussi être détérioré. Ça a été montré par exemple dans une étude où ils ont étudié l'effet d'un confinement très important. C'est un confinement de 520 jours qui avait été infligé à des astronautes qui se préparaient à une mission sur Mars. Donc ça n'a rien à voir avec le confinement qu'on subit là. Et en fait, ce qui a été montré, c'est un article qui est sorti en octobre dernier, c'est que les systèmes cérébraux qui permettent la communication entre ces systèmes cérébraux assez primaires et des systèmes de régulation émotionnelle avaient été détériorés chez ces astronautes.
Gérard Bonnet, comment le psychanalyste que vous êtes explique que certaines personnes gardent leur calme en toutes circonstances et d'autres explosent de colère à la moindre occasion ?
Écoutez, là, on est bien obligé de tenir compte des tempéraments, comme on dit, hein. C'est-à-dire qu'il y a des tempéraments colériques, qui le sont, j'allais presque dire, spontanément depuis toujours, et des tempéraments un peu placides, un peu tranquilles, qui ont très tôt réussi à mettre de côté, justement, les poussées émotionnelles trop fortes, hein. Donc là, on peut rien y faire, il y a, sans tomber dans la psychologie des tempéraments, elle existe et on peut pas la négliger. Mais c'est là justement que c'est très important d'être conscient, parce que l'un et l'autre sont menacés, si vous voulez, parce que celui qui est placide est d'autant plus à la merci d'une colère soudaine et brutale. Hein, alors que celui qui attend, j'allais presque dire l'habitude de manifester sa colère, et apprend à la manier, et peut-être, alors, avec des moyens comme l'humour, avec la plaisanterie, avec un certain jeu dans la parole, parvient quelquefois plus facilement à la gérer.
Laura nous dit assez justement sur notre page Facebook, vous parlez d'outiller les gens pour maîtriser leur colère, mais ça sonne un peu comme de la censure, car une fois que la colère est maîtrisée, on ne se révolte plus, on se résigne, c'est ça? Et donc comment changer les choses qui nous indignent, Elios Kotsou?
Alors, pour rebondir sur mes deux collègues, réprimer la colère ou la laisser sortir, deux très mauvaises idées. On sait que réprimer la colère augmente, par exemple, les risques d'accident cardiaque. Et par contre, se laisser aller à la colère est une émotion qui se nourrit d'elle-même. Et donc, quand on parle de tempérament, qu'est-ce que c'est? Un tempérament, c'est une répétition de comportement, une émotion qui devient une humeur, un tempérament, notre seuil de tolérance qui baisse, et donc l'émotion s'auto-entretient. Et par contre, ce que dit cette auditrice, c'est vraiment important. L'émotion de colère en elle-même est utile, et la question, c'est qu'est-ce que je en faire. Et la révolte, c'est vraiment une émotion importante qui nous dit qu'il y a un obstacle important par rapport à une des valeurs centrales dans nos vies. Et la question est, que va faire cette personne? Comment va-t-elle mettre son énergie, donc l'énergie de la colère, au service qui est important pour elle, plutôt que la laisser se retourner contre elle ou contre des gens qui n'ont rien à voir? Aristote, d'ailleurs, disait que tout le monde peut se mettre en colère, mais ce qui est difficile, c'est se mettre en colère pour des motifs valables contre la personne qui le mérite au moment voulu et durant le temps voulu. Et c'est ce que souligne l'auditrice, évidemment, c'est comment je peux mettre cette énergie importante au service qui compte pour moi dans la vie. Et dans ce cas, la colère ne sera pas une émotion destructrice, mais une énergie au service de quelque chose d'important.
En quelques mots, pour terminer, petite réponse à Laurence. Après la colère, la honte est présente en moi et cette honte me gâche la vie très longtemps après la colère. Doit-on avoir honte de s'être mis en colère, Gérard Bonnet?
Non, bien sûr, mais c'est vrai que les affects, hein, les émotions sont très liées les unes aux autres. Hein. Et c'est évident que quand on réprime l'une, on risque d'être à la merci de l'autre. Hein. Et en particulier, donc, on a honte, en effet, quelquefois, d'avoir été submergé, comme on dit, par la colère, parce que c'est pas toujours facile de la dominer. Mais il n'y a pas à avoir honte, parce que la colère fait partie de notre capital profond, et comme on vient de le dire, c'est celui qui nous permet de nous poser à partir de ce qu'on a de plus profond et de plus personnel. Et donc je crois que loin d'en avoir honte, on doit au contraire se dire pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut dire, et il faut que j'apprenne à la porter.
Catherine Belzunc, pour terminer, que doit-on faire quand on sent que la moutarde nous montonner, que la colère est prête à nous submerger? Est-ce que vous avez peut-être une technique pour faire baisser la pression?
Eh ben, pour moi, effectivement, la technique magique, c'est celle qui consiste à essayer de prendre la perspective de l'autre, en fait. Je pense que ça permet de se décentrer de soi-même, d'entrer dans le monde de l'autre, d'essayer de comprendre pourquoi il se comporte ainsi. Et je pense que ça permet vraiment de réguler la colère de manière assez efficace et sans être détrimentale pour soi-même.
Merci beaucoup Catherine Belzunc, Gérard Bonnet et Elios Kotsou.